I'm not surprised, motherfuckers.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 100 du Guillotine Podcast. Oui, ça fait un peu plus de 4 ans que je continue cette petite aventure, mon petit podcast, mon petit kiff, mon plaisir. Merci à vous en tout cas pour les écoutes et merci aux gens qui m'écoutent d'un peu, ben, au final partout dans le monde. Hein. C'est un peu un podcast qui est francophone, mais un podcast qui est francophone et international. Merci à vous, voilà, c'est toujours un kiff pour moi, je continue et ça ne s'arrête pas, il y a d'autres projets qui s'en viennent, merci à vous. Aujourd'hui, on récapitule UFC 292, on va se concentrer uniquement sur la main card. Il s'est passé des choses assez intéressantes hein, quand même, hein. Et c'était assez... assez palpitant, on va dire, pour le main event, du moins. Pour le reste, il y a eu quelques logiques qui ont été respectées. Et puis, je vous propose d'en parler directement. Rentrons dans le vif du sujet avec ce Marlon Chito Vera face à Pedro Munhoz. Et ben, Pedro Munhoz qui est malgré tout toujours infinissable chez les pros en MMA. Victoire de Chito Vera à la décision. Peut-être un peu dur, 30-27, j'aurais peut-être donné un round à Chito, mais en tout cas, à Chito Vera qui, comme à son habitude, part un peu en mode diesel, hein, un peu compliqué de partir, enfin pas compliqué, mais prendre son temps, prendre vraiment son temps, ne pas stresser, peut-être pas forcément accélérer au bon moment, peut-être un peu tard, mais ça marche. Pourquoi ne pas changer la stratégie? On était en 3 rounds. Je vous avoue qu'après le premier round, je me disais, bon, bah, peut-être que Pedro Munhoz a une chance. Mais à partir du moment où Marlon Vera est rentré dans son flow, ça a été très compliqué pour Munhoz qui a mangé énormément de jabs. Premier round, je trouvais Munhoz plus actif avec plus de leg kick. Chito commençait à calculer doucement la distance. C'est ça que je vous disais qu'il prenait son temps aussi. Patience, quelques jabs commencent à partir. Chito est malgré tout plus à l'aise et calme sur les one-twos. Il essaye de timer des knees aussi, des genoux, pardon. Munhoz doit être un petit peu plus actif hein, que Chito. Il est plus petit, moins d'allonge. Forcément, il doit avancer un peu plus sur son adversaire et changer de stance. Il essaye de le pousser contre la grille. Le volume est là quand même. Pour Pedro Munhoz, je trouve qu'il y avait plus de volume. Par contre, attention au menton. Hein. Quand il avance, Chito peut mieux connecter ses mains grâce à son allonge et puis avec une boxe qui est plutôt sympa aussi. Deuxième round, le corner de Munhoz lui demande d'ailleurs justement un peu plus de head movement hein, parce qu'on voit que Chito pourrait faire très mal sur un bras arrière. Chito Vera est plus chill. Il est devant, vraiment devant Pedro Munhoz. Lui, il est devant lui tranquillement. Enchaîne quelques pif-paf, tranquille, des jabs, des front kicks. Quand on boxe dans la poche, par contre, ça fait du bruit. Hein, les deux se donnent bien. Et puis Munhoz, on le sait, hein, il ne se fait pas finir. C'est plutôt les autres qui n'y arrivent pas. Chito gagnerait à mieux combiner. Hein, on est au milieu du deuxième round. Beaucoup de power one shot. Munhoz est pas mal quand même avec son allonge. Vu qu'il est plus petit, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien. Il arrive à toucher sa cible. Belle main arrière. On a une belle bataille de jab entre les deux, mais c'est quand même Pedro Munhoz qui ressort avec le plus de dommages au niveau du visage. Belle bataille. Quelques éclairs de Chito, mais ça manque encore un petit peu de volume selon mon humble avis. Troisième round, Chito est plus entreprenant, pas vraiment le choix, en début de round il doit accélérer, et toujours cette bataille de jab, mais clairement c'est Marlon Vera qui la gagne dans ce troisième round et au final sur le combat aussi. Vera change timidement de niveau, mais ça commence, hein, il commence à envoyer un petit peu de body shot, il accélère sur les 1-2, c'est des coups qui font mal. Dès que ça commence à changer les niveaux, ça commence à vraiment mieux connecter, ça fait mal à Pedro Munhoz, on le voit sur son body language. Et clairement, Marlon Vera essaye de capitaliser sur ses coups au corps. Chito est toujours calme, connecte très bien son jab. La face de Munhoz est vraiment en péril, hein, clairement, puisqu'on voit sa tête qui rebondit comme un bobblehead. Ça part un peu dans tous les sens. Il mange beaucoup de jab, c'est clair. Il va avoir besoin de beaucoup de glace. Victoire. Une victoire claire de Marlon Vera qui montre encore une fois que c'est un vrai gars du top 5 chez les bantams. Top 10, top 5 maintenant, clairement, parce que il a toujours répondu présent. Hein. Il y a eu des combats où ça a été un peu plus compliqué pour lui, comme on va dire à l'entrée du top 5. Mais bon, là, il était 6, il bat Pedro Munhoz. C'est un peu le gatekeeper au final du top 5, Marlon Vera lui-même. mais montre que c'est clairement un gars spécial. Hein. Et puis c'est surtout que le fait que O'Malley disait au micro cette semaine pendant le Fight Week, ça ferait du sens que si moi je gagne mon combat et que si Chito gagne son combat, ben, il faudrait refaire ce combat. Et c'est clair et net qu'avec le storytelling derrière, avec le narratif, c'est énorme comme combat. C'est énorme. Et puis imaginez la communauté sud-américaine, parce que bon, il vient de l'Équateur, mais c'est sûr que je pense qu'il y aurait toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud qui serait derrière Marlon Chito Vera face à Sean O'Malley. Ça me paraît très logique. Et lui, Sean O'Malley, bon, bah, il a évidemment une grosse fanbase. Hein, ça fait depuis des années et des années et des années qu'il construit sa marque en dehors de la cage et dans la cage, bien sûr. Donc oui, clairement, pour Dana White, c'est du pain béni cette situation et le déroulement de ce narratif suite à la carte UFC 292. Bravo à Chito Vera, il mériterait justement d'aller chercher ce combat, surtout que si c'est Sean qui décide, ben, je pense que Sean aura ce qu'il voudra. On peut passer au combat suivant. Je passe direct Mario Batista face à Damon Blackshear. Batista qui a gagné, hein. Damon Blackshear qui est rentré en short notice. Mario Batista qui est à 13-2 maintenant chez les Bantams. Hein. C'est, comme je vous dis, c'est vraiment une caté de fou, ces Bantams. Et Mario Batista, on devrait le revoir assez vite. Combat que je n'ai pas pu voir, c'est pour ça que je le saute rapidement. Mais clairement, hein, un candidat en merde, un candidat à foutre le bordel dans la catégorie. Passons au combat entre Ian Garry et Neil Magny. Alors, à quel point voulait-on ce Ian Garry face à Geoff Neal? Moi, je le voulais énormément parce que Geoff Neal, c'était clairement le gars qui pouvait faire peur à Ian Garry. Geoff Neal, c'est la teigne, c'est un peu le Michael Johnson des 170, le Geoff Neal. C'est clairement le gars qui peut foutre le bordel dans un combat contre lequel vous allez vous battre, qui clairement ne vous la mettra pas facile. Et Ian Garry, je pense qu'il voulait ce combat aussi parce qu'il a besoin de se tester, d'aller contre des teignes, contre des vétérans, des gars qui ont déjà fait de belles bagarres dans la catégorie, dans l'UFC, en MMA Pro. Malheureusement, Geoff Neal a dû se retirer du combat et on s'est retrouvé face à Neil Magny. Un grand merci à lui, hein, d'ailleurs, qui a accepté le combat parce que pareil, accepter le combat comme ça en short notice face, même si ce combat était un petit peu dans l'air, hein, quand même on pouvait s'en douter. Ian Garry, je pense qu'il voulait le battre, qu'il voulait se battre avec lui et qu'il voulait le battre, bien sûr, pendant un moment. Et Neil Magny a sauté sur l'opportunité et à son désarroi, hein, parce que ça a été une démonstration pour Ian Garry qui était un peu en mode sparring au-dessus de son partenaire. Quoi. Ça a été très compliqué pour Neil Magny qui a mangé beaucoup de low kick, qui en a énormément souffert, hein, un body language très très expressif depuis le premier round jusqu'à la fin du combat. Clairement, ça se voyait qu'il perdait. Qu'il perdait, que son corps ne pouvait pas suivre. Il lui fallait vraiment un Hail Mary pour aller chercher une victoire face à Ian Garry. Ian Garry, malgré tout, a fait ce qu'il fallait. Hein. Clairement, il a déroulé en round 1, round 2, round 3. Il a peut-être pas poussé. Il manquait peut-être un petit chouïa de pouce pour aller chercher ce finish, mais il lui a roulé dessus, il a gagné 30-27, ou on pourrait même plus, ça pourrait être plus, hein. J'ai pas exactement les scores, mais bon, ça pourrait être plus que ça, mais il a gagné les 3 rounds haut la main. Premier round, les premiers low kicks ont l'air de bien passer, ça fait mal. Neil veut aller au clinch parce qu'il sent que ça va être un problème. Ian va lutter contre la grille en réponse, mais Neil se fait vite laisser aller au sol. Il doit se relever un low kick derrière, on est dans le premier round, hein. Un low kick fait déjà tomber knockdown Magny. Il doit se relever, super front kick derrière en pleine poire de la part de Ian Garry. Neil Magny continue encore de manger ses kicks, mais dans les jambes, Neil Magny n'y arrive pas. Round 2, Magny débute le round avec le jab, il arrive à toucher, connecter Ian Garry quelques fois, et là Ian Garry recule et tourne autour de son adversaire. Donc ça, j'ai aimé le côté patient. Et pas le côté frustré que directement début de deuxième round, Neil Magny essaie de changer un petit peu sa mentalité, son attitude et son game plan. Et ça commence à toucher un tout petit peu. Gary a bien répondu. Il a été smart, il a été sage, il a reculé, il a tourné autour de ton adversaire et il a continué le low kick et Neil a encore continué à boiter. Les feintes commencent à vraiment bien marcher pour Ian Gary. Il est patient, il ne rush pas. Neil part en single leg, mais Gary défend bien et Neil insiste évidemment sur les phases de lutte hein, puisqu'il n'a plus de jambes. Gary le retourne. Par contre, Ian Gary, clairement plusieurs fois, s'est fait toper à utiliser la cage en trichant. Clairement, parce que ton corps, tes membres doivent rester à l'intérieur de la cage. Tu ne peux pas utiliser ce qui est en dehors de la cage. Donc l'autre côté de la cage, tu ne peux pas l'utiliser comme une barre de fer ou comme un bâton pour pouvoir te repousser vers la grille. Ça ne marche pas. Hein, c'est comme si tu utilisais genre, quelque chose qui n'est pas utilisable face à un adversaire qui, lui, justement, empathie. Puisque Neil Magny était contre la grille et quand tu te retrouves avec quelqu'un qui pousse contre toi en tirant la cage... Bah forcément il a un ascendant sur toi qui est absolument pas fair, pas juste. Donc ça c'était le carton jaune quand même pour Ian et j'espère que son corner va corriger ça. Gary est trop long, hein. Quand je dis trop long c'est que ses membres sont trop longs, son allongé est trop long, c'est vraiment un énorme problème pour Nick Magny, même s'il est grand, qu'ils ont un petit peu le même gabarit chez les welter. Très très gros problème, la jambe gauche de Neil Magny est morte. Gary prend son temps pareil, round 3, on est exactement dans la même affaire. Ça, on avait l'impression qu'on attendait un petit peu la mise à mort de Ian Gary, hein, la bête qui est vraiment en mode survie. Ian continue de briller, faire ce qu'il veut. Neil est en peine contre la grille, on est limite dans l'amusement. 3 rounds à 0 haut la main pour l'Irlandais qui n'a pas eu le combat qu'il devait avoir. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas appris grand chose face à Ian Gary. Je pense qu'il a travaillé clairement hein, sur son training camp très fort et comme il devait le faire s'il allait se battre contre Geoff Neal au final, puisque c'était son adversaire qui était prévu. Donc clairement, il a pris ça sérieusement et le déroulement du combat face à Neil Magny a aussi été très sérieuse. Mais je le sais, je l'ai vu depuis ses premiers combats vers le deuxième, troisième, quatrième, etc., c'est qu'il y a une évolution positive que j'ai vue chez Ian Gary et je veux enfin le combat qui sera le combat déterminant dans son run chez les welter au UFC. Et on ne l'a pas encore vraiment eu parce que je pense que Geoff Neal, ça aurait pu être l'adversaire qui lui donne, mais Neil Magny n'était pas au niveau de donner un vrai défi à Ian Gary et de nous donner de nouvelles vraies infos face à Ian Gary. Là, je n'ai pas de nouvelles infos à donner par rapport à Ian Gary. Juste que, oui, il est patient, oui, il s'est paroché, oui, il s'est kické, il s'est utilisé son range et il travaille clairement sa lutte contre la grille, mais on n'a rien appris de plus. Et ça m'embête un peu, mais bon, il faudra attendre le prochain malgré tout. Victoire de Ian Gary. Une de plus dans la poche, malgré tout, bravo à lui pour son sérieux. Et on enchaîne avec le co-main event entre Zhang Weili et Amanda Lemos. Encore un combat sur cette carte, malgré tout, qui n'a pas forcément le lieu d'être. J'aurais préféré une combattante, mais un peu plus... compétitive, on va dire, pour Zhang Weili, parce que clairement, Amanda Lemos, c'est une dure à cuire. Et, elle a un gros niveau dans pas mal d'aspects du MMA, mais Zhang Weili est un monstre. C'est incroyable à quel point cette fille a une condition physique débile, un niveau débile, une patience et une discipline complètement folle, quoi. Personne n'a ça dans sa catégorie. J'ai pas envie de m'enflammer et dire pour toutes les catégories, mais en ce moment genre c'est peut-être la meilleure compétitrice chez les filles au complet, quoi. Parce que oui, bon, il y a Shevchenko, il y a Grasso, il y a plein d'autres bonnes combattantes, mais Manon Fiorot aussi, mais le niveau affiché dans la cage, et après je sais c'était contre Lemos, c'était pas contre la meilleure, etc., forcément, mais quand même, l'abnégation de Lemos face à Zhang Weili était vraiment très, très respectable, très louable. Puis sa défense, enfin son côté plus survie, est très, très bon. Parce que Zhang Weili a montré des aptitudes complètement débiles au sol. On le savait qu'elle était bonne. Hein. On sait qu'elle est bonne en lutte, on sait qu'elle est bonne dans le grappling, on sait qu'elle est bonne au sol, on sait qu'elle a du knockout power dans les mains, mais elle m'impressionne de plus en plus. Elle a perdu plusieurs fois. Je sais qu'elle a perdu, je sais que Elle s'est fait craquer, ça lui est arrivé plusieurs fois, mais moi, personnellement, je vous le dis, elle m'impressionne énormément dans la cage et c'est un plaisir de la voir rouler sur Lemos. Hein, j'ai rien, absolument rien contre Lemos, hein, je voulais que ce soit compétitif pour elle et puis je lui souhaite le meilleur dans la vie, évidemment, mais ça a été un pur kiff de voir cette performance de Zhang Weili, une vraie championne, de la trempe de championne, de la performance de champion, parce qu'elle a été aussi chercher le finish tout du long, même si elle savait qu'elle pouvait aller genre vider son gas tank et potentiellement se mettre en danger, hein, ça lui est arrivé une ou deux fois d'ailleurs dans le combat, ben, elle continue de pousser. Et ça, c'est louable, hein. Il faut respecter à 200% les gens qui mettent autant de risques dans la cage pour pouvoir gagner la ceinture, mais aussi défendre sa ceinture, je n'utilise pas le bon mot, mais défendre sa ceinture pour aussi aller chercher, en essayant d'aller chercher un finish aussi, alors qu'elle aurait pu juste se contenter de lui rouler dessus comme elle le faisait, mais clairement, elle a essayé d'aller chercher plusieurs fois. Énorme performance de l'athlète chinoise de chez Beng Tao. Premier round, premier catch kick de Zhang et directement problème pour Amanda Lemos. Hein, voilà, elle se fait catcher un kick, elle se fait sweeper. Grosse pression au-dessus de Zhang Weili et ça finit directement en side control. Elle est dans la merde pour plusieurs minutes et ça donne le ton de tout le combat. Lemos doit travailler très très fort pour atteindre la cage, hein, parce qu'on était à peu près au milieu de l'octogone. Vraiment, elle rampe, hein, en side control, c'est l'enfer, hein, je vous le dis. Surtout quand c'est quelqu'un comme Zhang Weili en compétition pour défendre une ceinture, vas-y, bonne chance. Et puis en plus, c'est que dès qu'elle arrive à se relever un petit peu, Zhang Weili la punit quand elle se relève, hein, direct que ça part sur des coudes, etc. Lemos tentera une darse, Weili est obligée de... quand elle tente la darse, elle est debout, elle se jette. Weili est obligée de sortir sur le côté, mais elle a eu exactement ce qu'il fallait faire. Elle a essayé de se mettre vraiment perpendiculaire face à son adversaire pour que l'angle ne soit pas trop haut, vraiment fort. Sur son cou et Lemos ne puisse pas l'attraper avec ses jambes, hein, parce que pour finir une darse, généralement, t'es mieux d'essayer un peu comme une anaconda choke. T'es mieux d'essayer d'avoir un énorme poids avec tes hanches, un énorme poids sur les épaules sur ton adversaire. Donc ça, ce serait plus en angle, mais au-dessus, pas en dessous. Ou alors, t'es au-dessus et puis tu vas essayer d'attraper les jambes de ton adversaire comme un anaconda choke pour essayer de lui mettre plus de pression et être en meilleure position pour finir. Là, elle avait aucun des deux. Elle était en dessous dans une position que certes, elle peut le serrer, elle peut la finir, mais il y a genre un athlète de haut niveau de jiu-jitsu sur 1000 qui est capable de finir dans ces conditions-là. Et puis, je vous rappelle qu'on est chez des petits poids. Donc, c'est compliqué d'avoir la force herculéenne pour finir dans cette position-là. Mais comme je vous le dis, hein, Weili, encore une fois, il a eu la présence d'esprit de se mettre perpendiculaire pour pouvoir sortir de là. Et elle a réussi à sortir. Et puis après, derrière, attention, prise de dos, hein, de Zhang Weili, après avoir justement eu ce petit coup de frayeur, ground and pound, et la brésilienne survit, mais bordel que Zhang Weili est forte au sol. Deuxième round, Lemos se sent pousser des ailes après avoir connecté une fois, hein, par contre, elle swing, perd son stance, un peu son équilibre, et Zhang Weili l'attrape, double under, elle la sweep tranquillement, c'est du pain béni pour la championne chinoise, qui se retrouve au-dessus en demi-garde avec 3 minutes restantes au chrono. Ça pue la merde pour Lemos. Elle est proche de se relever à un moment donné, mais Weili tourne vite autour d'elle, oblige Lemos à passer en tortue, reprend le dos, perd le dos, parce que c'est clair, Lemos, il faut le dire, hein, elle est très très douée pour se sortir des situations de merde. Elle reste jamais là en tant que victime à attendre de se faire choquer ou alors essayer de tirer sur les deux bras comme une marmule pour essayer de trouver sa respiration. Non. Elle sent qu'il y a une mauvaise position qui est là et Zhang Weili ne peut pas la garder parce que la réponse de Lemos est très très bonne. Hein, Lemos se relève. Encore une fois, se fait draguer contre le sol parce qu'elle se fait directement retomber au sol. Hein. C'est ça le problème aussi que j'ai vu, c'est que clairement, Lemos, quand elle arrive à se relever, Zhang Weili, directement derrière, c'est punition dans le clinch avec quelques coudes, des genoux, et derrière, elle la remet au sol avec du ground and pound. Troisième round, Lemos va à la lutte contre la grille et même dans ses recoins vraiment compliqués pour pouvoir striker, un peu limite dans le dirty boxing ou dans le clinch, Weili commence à placer des beaux coudes et ça fait mal. Lemos se fait remettre au sol, se fait encore prendre le dos. On est au milieu du round et ça pue le 30-27, voire plus déjà. Vali devrait avoir du mal à finir. Tant clairement, comme je vous le dis, Lemos défend et survit bien. C'est compliqué. C'est compliqué de la finir, mais la championne pousse et pousse et pousse et pousse. Lemos se relève, mais comme d'hab, encore une fois, punition, coude. Merci Bang Tao Muay Thai, hein. Clairement. Hein. Un bon gym de Phuket en Thaïlande où il y a des champions qui vont s'entraîner. Volk s'est entraîné là-bas, je pense qu'il en a un petit peu aussi. Il a une partie de l'entreprise dans les poches. Mais ouais, team de killer avec les frères Hickman. Un des frères Hickman travaille là-bas et gère la lutte. Et une section grappling. Et clairement, la lutte de Wiley, elle est fantastique, quoi. Vous le voyez. Et puis, garder la position. Garder la position. À quel point c'est important au MMA. Et Wiley, ça l'a bien compris, quoi. Même si Lemos réussit à se sortir de, comme je vous dis, des situations vraiment de merde quand elle se fait prendre le dos, etc. Ben, Wiley garde la position dominante, à savoir rester au-dessus. Voilà, au pire, elle perd le dos, mais elle se retrouvera au-dessus derrière avec toujours une demi-garde, une grosse pression de l'épaule et le dos Lemos allongé au sol. C'était très, très compliqué pour Lemos. Round 3, 3 minutes de stand-up, et là, ça touche-touche tranquille, et Lemos est plus dans son élément. Elle est toujours dedans, hein, par contre. Hein. 3 rounds à se faire rincer, elle se relève, et elle swing, elle essaye d'aller connecter, elle essaye de swinger un peu, elle essaie de placer 2-3 combis, elle utilise pas mal son range pour les kicks, mais attention, c'est compliqué. Attention à Wiley aussi, hein, parce que Wiley part des fois un petit peu, genre, face en avant, et attention au range, où elle pourrait se faire connecter, mais vers le milieu du troisième round, incroyable timing de Wiley pour passer un takedown, c'est dur. Lemos donne encore une fois sa vie sur un darts d'en dessous, par contre Wiley est tranquille cette fois-ci, elle a vraiment de la place pour respirer. Zhang dit non, hein. Zhang Wiley dit non, on est debout à nouveau, Lemos swing dans les 10 dernières secondes, elle doit être exténuée mais elle est toujours là, hein. Round 5, énorme droite de Zhang Wiley qui atterrit pleine poire de Lemos qui se retrouve au sol, beau knockdown. Wiley suit au sol, frappe encore et encore et encore. Lemos, ne veut pas, absolument pas claquer, quoi. Elle veut pas crever, elle veut pas mourir. C'est incroyable à quel point elle ne veut pas, elle n'abdique pas. Zhang Wiley pousse et pousse. Lemos veut se relever, mais les jambes n'y sont plus. Hein. Là, ça commence à être compliqué. Même si elle arrive à se relever, on voit que quand elle pose un genou au sol et qu'elle a l'autre pied, donc c'est vraiment dans l'ordre qu'il faut pour se relever, tout simplement, en MMA. Elle continue, mais bon, on voit qu'il n'y a plus la même force dans les jambes. On est au cinquième après s'être fait rincer, hein, je vous rappelle. Wiley sort de la garde au sol et attrape le crucifix. Enfin, hein, son corner lui avait dit, je crois, quelque part autour du deuxième, troisième round. Elle y arrive dans le cinquième. Lemos arrive à s'échapper de ce crucifix, mais remange des shots contre la grille derrière. On repart sur un takedown et Lemos se fait rincer à nouveau. Dernière tentative très faible de guillotine de Lemos. Debout, c'est un non et Zhang Wiley gagne ce combat haut la main. Respect à 700% pour la championne chinoise. Quelle performance parfaite ou quasi parfaite de A à Z, je veux dire. C'est dur de faire mieux. C'est dur de faire mieux et qui peut la battre Rose l'a déjà battue, mais enfin, je vous le dis, c'est le niveau qu'il faut avoir pour aller chercher un game plan, pour casser le game plan de la championne sur 5 rounds, bonne chance, vraiment bonne chance. And still, la championne Zhang Wiley, bravo elle, une grande, grande, grande combattante, un plaisir de l'avoir vue performer dans la cage, bravo Zhang Wiley. On peut passer au main event de la soirée, Aljo Alajamain Sterling face à Sean O'Malley. Sean O'Malley qui, je dois remettre du contexte sur ce combat, hein, sur ce title shot pour le jeune américain. Victoire très, très, très contestée et contestable face à Pewterian. Voilà, il faut le dire. Malgré tout, hein, ce que je compte nuancer sur ces propos, parce que je pense que vous savez lire entre les lignes dans ce que je viens de dire, Sean O'Malley a gagné beaucoup contre le combat contre Pewterian. Il avait perdu, me semble-t-il, sur le visionnement du combat, hein, sur les scores théoriques des juges, hein, parce que dans la réalité, ça a été autre chose apparemment. Mais il avait gagné beaucoup. Beaucoup, beaucoup, parce qu'il avait sorti vraiment genre un combat de warrior face à un killer. Maintenant, hein, le match-up était fait face à Sterling. Sterling a accepté plus que gentiment de se retrouver face à Sean O'Malley pour défendre sa ceinture dans des délais assez brefs. Hein. Je vous rappelle que c'est le champion qui était le plus prolifique au niveau des combats ces dernières années dans les défenses de ceinture. Il se faisait quand même chier dessus à chaque fois. Hein, cette haine gratuite envers Aljo, ces critiques gratuites. Pour son style de combat, clairement, rien d'autre. Hein. Après, genre, les déclarations, quoi que ce soit, je ne veux pas en entendre parler parce qu'il y a 700 fois pire chez beaucoup d'autres combattants. Malgré tout, restons en dehors du polémique, concentrons-nous sur le sportif. Parce que ce combat, je vous parlais de Ian Garry où on n'avait pas appris grand-chose, là, on a quand même appris. On a quand même appris et puis on a surtout eu un dénouement assez historique hein, chez les bantams quand même, il faut le dire, parce que beaucoup de défense de ceinture pour Sterling et perte de la ceinture pour Aljo en ce samedi 19 août 2023 à Boston. Premier round, Sterling, Aljo gère bien les leg kicks en début de round. Sean O'Malley trouve son range tranquillement en utilisant des front kicks. C'est un round de reconnaissance, on va dire, entre les deux fighters. Sean tourne extrêmement bien autour de Aljo, hein, parce qu'on voit qu'au moins Aljo essaye de le pousser contre la grille. On voit qu'il essaye de timer un shoot à un moment donné, hein, mais même si on sait qu'il va le timer, ça ne veut pas dire qu'on va le voir venir, ça ne veut pas dire qu'on va être capable de le défendre. Juste, il est en train de le préparer tranquillement, il push Sean O'Malley et puis se préparer un shot comme ça, c'est pas seulement un double leg. Hein. Il faut aller placer 2-3 strikes et puis donner des feintes, changer les levels, etc. Et puis il y travaille tranquillement. Aljo, par contre, réagit aux feintes de Suga. Hein. Suga, Sean O'Malley, lui, toujours envoyer des feintes avec les hanches. Ça, il le fait très bien. Avec les épaules aussi, son body movement est très, très bon pour pouvoir justement baiter son adversaire face à ces feintes-là. Feinte beaucoup. Strike pas énormément. Premier shoot en single leg de Sterling dans les 20 dernières secondes. Comme je vous le dis, beaucoup de reconnaissance, pas énormément d'action au final. Deuxième round, un moment très très important dans la carrière de Aljo et dans la carrière de O'Malley aussi, puisque O'Malley glisse en début de deuxième round. Rien à voir avec un strike de son adversaire. Clairement, il glisse tout seul. Sterling lui saute dessus, hein, il va chercher un body lock autour de O'Malley. Mais O'Malley, on voit qu'il sait bien défendre les mains au final. Clairement, il a travaillé ça avec son coach, hein, la grille et les défenses de takedown contre Sterling. Hein. Celui qui ne fait pas ça est un imbécile, un ignorant ou un fou. Clairement, O'Malley, il a fait, il sait bien défendre les mains, il essaie de casser les poignets de son adversaire. Et de casser la grip de son adversaire. Et là, dans le deuxième round, quand Aljo lui a sauté dessus, clairement, il va chercher pour le body lock. O'Malley défend très bien, il arrive à se retourner face à lui, à se décoller de la cage. C'est ça qui est important aussi quand vous avez un adversaire qui presse contre la cage. Il va essayer d'aller chercher, connecter ses propres mains, pardon, que ce soit en double leg ou alors pour le body lock, pour pouvoir vous mettre au sol. À partir du moment où vous vous détachez un peu de la cage, ça vous laisse un peu d'espace pour pouvoir retourner votre adversaire avec différentes techniques. Malgré ça, O'Malley défend super bien et sur un échange vif, O'Malley arrive à counter depuis son autre stance en plus. Hein, c'est pas avec sa main gauche, sa main gauche est fantastique. O'Malley, sa main arrière, elle va vraiment vite, elle fait mal et elle arrive à knock out ses adversaires. 135 livres, hein, je vous le rappelle. Malgré tout, O'Malley fait 5 pieds 11, soit 1m80. C'est un bantamweight qui est très grand, très 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 grand et puis il a du knockout power. Donc c'est un danger pour son adversaire et comme je vous l'ai dit, Aljo, pour préparer des takedowns, il est obligé de varier son jeu. Tu ne peux pas juste pousser pour un double leg, etc. Il faut que tu avances un petit peu, sois un peu agressif sur ton adversaire, lever sa garde pour pouvoir laisser un petit peu de place en bas et pour pouvoir aller casser son stance et essayer d'aller le mettre au sol. Eh bien, il est arrivé un petit peu trop avec justement cette mâchoire un peu trop en avant, quoi. C'est-à-dire que ce vraiment, genre, typique du MMA. Le strike en courant ou en avançant avec des 1-2. Et ça, le problème de ça, c'est que ça peut passer, mais les strikers voient beaucoup ça comme un mauvais striking, alors que c'est pas le plus beau des striking et c'est pas le plus efficace. C'est clairement pas, on l'a vu encore une fois, le plus safe, hein, puisqu'il s'est fait toucher, il s'est fait connecter, c'était terminé derrière. Mais c'est un striking qui marche au niveau de la pression pour pouvoir aller placer du grappling derrière. Mais O'Malley, lui, il a été intelligent. Il a vu, il a une très bonne lecture de jeu et il a juste attendu justement qu'il fonce vers lui. Il a réussi à bien reculer. Bon, après, il est plus grand, hein, donc Sterling, pardon, doit se mettre plus en danger qu'O'Malley pour pouvoir aller essayer d'aller connecter avec ses mains. Il se retrouve avec un menton qui est plus à découvert et plus proche. Et O'Malley en a profité très très bien et a placé une main droite arrière qui est arrivée pleine face, bah, je pense que ça arrivait sur la mâchoire ou alors le haut de la mâchoire, mais en tout cas, genre, ça a clairement sonné Aljo qui s'est fait knockdown direct. O'Malley a suivi avec du grand and pound, n'a pas hésité. L'arbitre a été cool hein, parce qu'il l'a laissé placer plusieurs coups, mais après, Sterling était toujours là aussi. Aljo était toujours là, il essayait de se défendre, il essayait de placer les mains. Mais bon, au bout d'une dizaine de coups, douzaine peut-être, c'était légitime d'arrêter ce combat. Et Sean O'Malley décroche la ceinture des Bantamweight. Hein. Ça va être quelque chose. Les prochaines semaines, les prochains mois, etc. Puisque, comme je vous le dis, hein, ce mec, c'est quelqu'un qui construit sa marque dans la cage et en dehors de la cage. Donc là, si vous mettez les deux ensemble, ça va être peut-être un petit peu trop de sugar show pour nous. Ouais. Mais regardez, pour le sportif, on peut rien dire, quoi. Il l'a éteint. Il l'a éteint et puis il a su défendre les premiers takedowns. Et puis c'est aussi sa défense de takedown et de lutte face à Aljo, c'était tourner autour de son adversaire vraiment bien. Hein. Ses déplacements et ses feintes, etc., ça a été une galère pas possible pour O'Malley qui a essayé de l'attraper et ça a été très dur. Hein. On l'a vu parce qu'il a essayé de placer ses single legs, etc. C'était pas du pain béni hein, pour Aljo qui en a chié, clairement, pour installer son plan de lutte et qui, clairement, encore une fois, bah, juste a pas réussi et s'est fait éteindre. Donc, comme je vous dis, déplacement, counter, patience, puis quand tu te fais attraper, bonne défense contre la grille et puis surtout ne pas rester collé contre cette putain de grille et essayer de s'en débarrasser vite, quoi, de se débarrasser de la grille depuis son dos. C'était important. Et puis ça, Sean O'Malley l'a bien fait. Et puis bravo à lui. Tout simplement. C'est que, je veux dire, il a fait ce qu'il fallait. Et il l'a bien exécuté. Et en plus, il a eu un finish derrière. Quoi, parce que O'Malley sur 5 rounds, voilà, forcément, j'y croyais pas énormément. Hein, parce que je pense pas qu'il ait le gas tank, l'énergie, l'expérience pour ça. Surtout face à un champ contre Sterling. Et ben, il a fait ce qu'il fallait. Il a eu le sniper dans la main droite. Et puis, il a éteint Aljo. Et c'est le nouveau champion des Bantam. Voilà. Et puis, moi qui vous parlais de ce narratif entre Chito et O'Malley, ben là, on l'a ce narratif. Hein. Clairement. Hein. J'ai pas suivi ce qui s'est passé derrière. Comme je l'ai dit sur Twitter vite fait, j'étais pas là ce week-end, j'ai pas vu les combats en direct, j'ai pas tweeté pendant les combats, j'ai pas échangé avec les amis pendant les combats, j'ai pas vu ce qui s'est passé en presse conf derrière, etc. Je n'ai rien lu des déclarations. Tout ce que je sais, c'est qu'il voulait faire ce combat avant. Hein. Comme je vous l'ai dit, si les deux gagnent, O'Malley disait ben, qu'on se rencontre à nouveau. Ben là, le narratif est tout fait quoi, pour l'UFC. Et c'est du pain béni pour l'organisation de Dana White. Ouais, ben moi je vote oui, tout simplement, parce que l'historique est ouf et qu'il pourrait construire une carte de zinzin autour de ce combat. Mais au final, voilà. Ça a été la surprise et la seule, parce que moi, Jean Valli, j'y crois en elle. Et puis, on n'était pas non plus super positif par rapport à la possibilité d'une victoire de les boss, mais ça veut rien dire, tout peut se passer dans le MMA, et puis les Moss, on l'a vu, elle est capable de très très bien défendre, et ça a été une vraie plaie hein, pour Jean Valli d'essayer de se faire finir. Elle n'a pas réussi à la finir d'ailleurs. Et puis le reste, bon, Ian Garry face à Magny, c'est un peu décevant, parce que voilà, c'était décevant avant, ça l'est un peu après, mais voilà, Ian Garry peut rien. Donc voilà, c'est là où on en est, et puis j'ai vu aussi que Weidman s'était fait déboîter dans les prélims et puis ben, c'était pas nécessaire de revenir. Et ça, par contre, on l'a vu venir, celle-là. Ben, je souhaite qu'il soit en sécurité, surtout, quoi. Hein, parce qu'un daron qui a fait un peu, quand même un peu d'argent et qui retourne là pour la gloire, là, c'est faut arrêter. Merci à vous. Merci à vous. Encore une fois, épisode 100 du Guillotine Podcast. Là, ça fait plus de 4 ans et demi. Là, puis cette année, c'est cool. Ça marche bien. Je suis content des podcasts, il y a un petit peu plus de gens qui écoutent à chaque fois, Ça se passe bien sur YouTube. J'arrive à placer quelques interviews. Je couvre des events. J'espère que j'ai normalement quelques interviews qui vont être line-up. Ça devrait être cool. J'espère qu'il y en a une qui sort bientôt. Voilà. Mais je peux pas rien vous promettre parce que malheureusement, tout n'est pas entre mes mains, hein. Ce sort n'est pas entre mes mains. Mon propre sort de ce que je veux faire, de cette chaîne, de ce podcast n'est pas entre mes mains. Mais je ne lâche pas l'affaire et je kiffe sur tout ce que je fais. C'est ça qui est important. C'est ça. Mais merci à vous. Hein. Merci à vous en Belgique, en Suisse, au Maroc, en France, à La Réunion, à la Martinique. Merci à vous. Franchement, merci. Merci, 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 merci. Bye! At the end of the day, it is.